La sexe exploratrice
avec Mel Trudel.
La sexe exploratrice
Radio X.
Vous êtes de retour avec Mel et Mel et vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X. On est en bonne compagnie ce soir. François Roy, entremetteur dans les événements pour célibataires. Go see you. Bonsoir, François.
Salut.
Tu restes avec nous pour le reste de l'émission?
Oui.
C'est parfait, puisqu'on va y aller avec une formule question, ligne ouverte et texto. On est également en live sur le TikTok de La Sexploratrice. Vous avez pu voir notre chère Mel. Mel Paré.
Ben oui.
Mel Pi.
Mel P.
Et moi, c'est Mel Trudel, OK? Pour les gens, arrêtez de nous confondre, s'il vous plaît. Le week-end, je reçois des messages de moi qui est supposément en onde. Non, non, c'est pas moi qui est en onde, là. C'est Mel Paré.
C'est parce que Yannick, il m'a donné, ben, puis oui, il m'a donné un surnom pendant que j'opérais. J'étais ici, à la console, parce que Yannick est au salon de la motoneige, et il m'a trouvé un surnom Mel P. Mais là, les gens, ils comprenaient Mel T. Tu sais, Mel T, Mel P, ça se ressemble. Donc là, tout le monde était mélangé. Je recevais des messages. Mel, on est tellement contente que tu sois là. T'es tellement incroyable. J'ai dit, moi, c'est Mélanie. Parce que
tu parlais de moi dans le retour.
Oui, c'est ça. Mais j'ai fait les messages à Mel pour tous ceux qui ont envoyé des beaux commentaires. Oui. Mel est au courant, inquiétez-vous pas.
Mais oui, puis merci. On aime ça vous lire. Vous avez pas idée à quel point ça nous fait du bien quand vous nous écrivez des bons mots, des bons commentaires par rapport à des sujets ou des trucs qu'on a partagés en ondes. Là, j'ai un petit problème technique ici. OK, parfait. Donc, on est en compagnie également ce soir de notre cher urologue Louis-Olivier Gagnon des cliniques Marois. Et hors d'onde, on parlait sur le live TikTok, on parlait des, justement, les nouvelles relations. Là, on a parlé de célibat avant la pause. Lorsqu'on rencontre une nouvelle partenaire et que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de relation et tout ça, parfois on oublie qu'après la relation, c'est très important, autant pour elle que pour lui, d'aller à la salle de bain. Et là, je vois des cas, OK, de jeunes filles. J'ai des amis qui ont des jeunes filles adolescentes qui ont des nouveaux partenaires et tout ça. Et ça se ramasse à l'hôpital pour des infections urinaires. Puis là, les mamans sont désemparées puis savent pas trop comment en parler avec leurs jeunes filles. Mais peux-tu nous expliquer un peu pourquoi c'est si important d'aller à la toilette tout de suite après une relation? Et ce, même si on le voit pas dans les films, OK? C'est romancé, les films, on voit que les gens, ils vont pas à la salle de bain après avoir fait l'amour.
Ils peuvent couper, aller à la salle de bain, puis y revenir.
Il faut y aller. Ouais, c'est dans tous les films. Dans tous les films romancés, les films X, les films, peu importe, là, les gens vont pas à la salle de bain après avoir fait l'amour, alors que c'est tellement important.
C'est probablement coupé au montage, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ils font couper!
Mais... Puis même lors d'utilisation de jouets sexuels.
Oui, oui.
Ouais, c'est ça. C'est vrai.
Mais oui.
C'est sûr que ça, c'est des choses qui peuvent mettre à risque, là, les jouets sexuels ou les manœuvres anales, là, si on veut. Mais les infections urinaires chez les jeunes filles, là, disons, entre 20 et 40 ans, la cause première, là, dans 99 % des cas, là, c'est, ça a un lien avec les relations sexuelles. Donc, souvent, ils vont s'en rendre compte quand c'est un nouveau partenaire. Puis des fois, il peut avoir des infections urinaires avec un partenaire puis pas avec un autre. Des fois, il y a une espèce de chimie là, entre partenaires qui fait qu'on peut être plus à risque. Mais c'est vraiment quelque chose de commun. Là. Donc, les jeunes filles là, entre 20 et 40 ans qui ont des infections urinaires, la vaste majorité du temps, ça a un lien avec les relations sexuelles. Donc, dans ce temps-là, ben, il y a quand même les conseils de base qu'on donne là, à tout le monde. Donc, essayer de boire plus d'eau, éviter les urines jaunes, essayer que les urines soient transparentes. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut aider. Éviter les bains chauds, les spas, qui peuvent être un facteur de risque aussi là, pour les infections. Aller uriner après chaque relation sexuelle, ben, s'essuyer du bon bord qu'on va à la salle de bain. Là.
Ben oui, après c'est
ça,
la base.
On peut prendre des suppléments de canneberge aussi qui peuvent aider.
S'essuyer du bon bord, là. Excusez-moi,
c'est
vendredi. Mais
là,
non, c'est correct.
C'est dans l'arrière.
Oui, je comprends.
c'est ça, il y a les suppléments de canneberge aussi qui peuvent aider parce que ça va acidifier les urines. Puis, comme
donc, ce n'est pas un truc de grand-mère, là, ça, là, les capsules de canneberge.
C'est ça, parce que les capsules de canneberge, en général, là, la règle du pouce, c'est qu'on dit 2 comprimés de canneberge, ça équivaut à 8 litres de jus de canneberge.
Oh.
Puis, tu sais, le jus de canneberge, c'est bien beau, là, mais il y a beaucoup de sucre, là, donc c'est pas nécessairement super intéressant. Donc, les suppléments de canneberge, ils ont la molécule active de la canneberge dans le supplément, c'est la molécule PAC. Puis, tu sais, ceux-là qu'on recommande, là, c'est les produits là, Utiva, U-T-I-V-A, ou sinon Uriexo. Donc, il y a des produits naturels qui sont supérieurs à d'autres. Là. Fait que dans les suppléments de canneberge, c'est soit Utiva ou Uriexo. Donc, ça, c'est pas juste là, les gens qui ont des infections post-relation sexuelle. Ça peut être les femmes plus âgées qui ont des infections là, pour X raisons. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis sinon, justement, là, chez les jeunes filles là, qui font des infections après chaque relation sexuelle, ben, on peut donner un antibiotique même en prophylaxie, en prévention, à prendre après chaque relation sexuelle.
Parce que d'aller uriner ne serait pas assez...
Il y en a chez qui, c'est pas suffisant. Là.
C'est-tu parce qu'à la base, c'est qu'il y a une bactérie qui entre dans l'urètre, dans le fond? C'est ce qui crée l'infection urinaire?
Souvent, là, les infections urinaires, en général, là, c'est des bactéries qui viennent du système gastro-intestinal, là, donc rectum, anus,
okay.
qui vont au niveau du vagin, puis après ça, qui vont au niveau de l'urètre puis de la vessie.
Ah, OK.
C'est beaucoup plus fréquent chez les femmes, parce que l'urètre chez la femme a 3 ou 4 cm, tandis que chez l'homme, avec le pénis, c'est beaucoup plus long. Fait que beaucoup plus compliqué puis difficile d'avoir une infection. C'est d'ailleurs pour ça qu'une infection urinaire chez un homme, c'est vraiment comme un drapeau rouge. Il faut faire des tests parce que c'est pas normal. Là. Il y a probablement un problème anatomique ou une pierre ou une cicatrice ou quelque chose.
Ah,
de
ouais.
ça, fait que un homme qui fait une infection urinaire, c'est pas banal. Chez la femme, vous êtes beaucoup plus à risque. Donc, c'est plus d'essayer de miser sur la prévention. Fait que souvent, là, les gens qui vont venir nous consulter, on va faire une cystoscopie, un examen avec la caméra là, dans la vessie pour s'assurer que tout est beau dans la vessie, qu'il n'y a pas de polype, qu'il n'y a pas de pierre, qu'il n'y a pas rien d'anormal. On va faire un examen vaginal aussi, être sûr qu'il n'y a pas de descente de vessie, de prolapsus, qu'il n'y a pas de sécheresse. C'est sûr qu'il y a des facteurs de risque vaginaux là, qui peuvent mettre à risque pour les infections, là, surtout chez les femmes plus âgées. Là, donc, tout ce qui est atrophie là, vaginale. Parce que dans le fond, le vagin est là pour protéger aussi là, des infections urinaires parce qu'on disait que les bactéries passent de l'anus au vagin, du vagin à l'urètre. Donc, si le vagin est vraiment optimal au niveau de son hydratation, de son pH et tout ça, ben, il va être capable de bloquer là, la bactérie et l'empêcher d'aller au niveau de la vessie.
Et donc, lors d'une relation sexuelle, ce qui arrive, c'est probablement que le... Le pénis doit accrocher un petit peu, peut-être.
C'est que le vagin est tellement proche de l'anus, fait qu'il va
c'est
avoir
ça, une petite bactérie
qui c'est ça qui va se rendre au niveau de la vessie. Okay. C'est sûr que l'utilisation des jouets ou encore plus là, les manœuvres rectales, là, c'est à surveiller. Là.
Ouais.
Mais tu sais, il y en a qui ils prennent toutes les précautions au monde puis qui font quand même des infections. Comme je disais, là, des fois, il y a une espèce de compatibilité avec un nouveau partenaire qui fait en sorte qu'avec ce partenaire-là, il y a plus d'infections. Fait que c'est là qu'on va y aller avec les antibiotiques.
Oui.
C'est sûr que là, les gens qui sont très, très actifs sexuellement, là, qui ont des relations à chaque jour, ben là, ils se retrouvent à prendre des antibiotiques à chaque jour. Fait qu'on va
la prophylaxie.
Oui, on appelle ça de l'antibioprophylaxie. Là, il y a d'autres façons même supplémentaires qu'on peut essayer de prévenir. C'est quand même nouveau. Là, depuis quelques années, il y a un médicament qui s'appelle l'Instylan, I-N-S-T-Y-L-A-N, qui est comme de l'acide hyaluronique, qu'on peut mettre là, via une sonde au niveau de la vessie. Le protocole, c'est une fois par semaine pendant 6 semaines. Puis c'est un médicament qu'on met au niveau de la vessie. Dans le fond, le tapis de la vessie, c'est fait avec de l'acide hyaluronique. Donc, ce médicament-là, le but, c'est d'essayer de réparer le tapis de la vessie pour le rendre plus fort, pour lutter contre les infections puis prévenir les infections. Donc ça peut aider. Là. C'est quelque chose qui est quand même nouveau, mais qui est super intéressant. Les études démontrent là, que ça aide à diminuer le risque d'infection urinaire à répétition.
L'acide hyaluronique, là, c'est ce qu'on... Il y a des femmes qui se mettent ça dans le visage. Là,
OK. Une amie, ça, Mel?
Non, moi, j'en ai pas pour vrai.
Non, ouais? Okay.
Mais non, j'ai essayé les neuromodulateurs, là, mais visiblement, moi, ça t'offre pas longtemps dans ma face.
Non?
Mais non, j'ai pas eu d'acide hyaluronique.
Non, mais t'as exactement raison. C'est parce que je trouve que tu connais beaucoup ça pour quelqu'un
qui
s'en est pas
capable. Mais c'est parce que je me suis informée. Okay. Mais c'est juste que c'est ça, hein. Tu sais, quand on. Parce qu'on a tendance à dire, on regarde une fille, puis elle a bien trop de Botox. Mais c'est pas le Botox, c'est l'acide hyaluronique. Ouais,
en esthétique, il y a comme deux choses. Il y a le Botox, qui est plus pour empêcher la contraction musculaire, les rides. Habituellement, le Botox, c'est pour toute la moitié supérieure du visage à partir des yeux.
Oui.
Donc, les zones habituellement qui sont faites, c'est la glabelle.
C'est ça, moi.
Après ça, le front, puis les pas de doigts qu'on appelle. Fait que ça, c'est les zones classiques pour le Botox.
Okay.
Le Botox, ça dure à peu près 3 à 4 mois. Fait qu'il faut le refaire souvent.
Oui.
Puis le but, c'est d'empêcher la contraction musculaire pour empêcher les rides. Fait que c'est sûr que c'est très léger. Là. C'est rare les gens qui vont remarquer là, quelque chose. Quand les gens disent que le visage a changé, c'est quand ils ont utilisé là, des agents de comblement. Puis la molécule, c'est de l'acide hyaluronique.
OK, c'est ça.
Mais dans le fond, le visage, avec l'âge, c'est qu'on perd du volume au niveau du visage. On perd de l'acide hyaluronique. Donc, le but des injections, c'est de remettre de l'acide hyaluronique.
De combler.
Habituellement, quand c'est bien fait... c'est censé redonner le look naturel. Donc, juste retourner dans le passé de 5 ou 10 ans, exemple. C'est pas censé changer là, la morphologie du visage, dépendamment de ce qui est visé. C'est sûr que là, il y a toute une mode là, sur les réseaux sociaux là, d'avoir les lèvres de calibre le plus grand possible.
Oui.
Ça, c'est comme une autre affaire. Okay. Mais habituellement, comme les agents de comblement, plus au niveau là, des joues là, ou du menton, c'est vraiment plus là, dans le but là, d'essayer de reculer l'horloge de quelques années. Là.
Mm-hmm.
Mais okay. C'est la même molécule qu'il y a dans l'instillant qu'on parlait pour la prévention des infections.
OK. Et là, on parle des infections urinaires, mais je donne souvent mon truc, là, des capsules d'acide borique pour équilibrer le pH vaginal. Je ne sais pas si vous traitez ça aussi, là, ces problèmes-là, mais moi, c'est un truc que j'ai depuis que j'ai 20 ans, là, puis ça a tout réglé. Là,
c'est sûr que d'optimiser le pH vaginal, c'est super. Nous autres, ce qu'on va faire souvent chez les personnes plus âgées qui sont ménopausées aussi, puis qui ont de la sécheresse, là, de l'atrophie vulvo-vaginale, on va donner là, des traitements d'estrogène en application intravaginale.
Ah, OK.
Donc, celui-là, le plus connu, là, ce serait le Vagifem. Donc, d'aller, c'est avec un applicateur, c'est comme une petite capsule là, d'estrogène là, qu'on va appliquer avec un petit applicateur qu'on va mettre au fond du vagin, puis qui va comme se dissoudre puis être absorbé au niveau du vagin. Mais là, ça va aider la sécheresse, donc ça va aider l'hydratation du vagin. Puis, accessoirement, ça va aider pour le pH aussi, parce que maintenir un bon pH, c'est sûr que ça va aider.
Mais c'est ça. Puis c'est fou à quel point le pH peut se déséquilibrer après une relation, après un spa, quand tu manges trop sucré, ou en tout cas plus jeune. Moi, c'était ça. Là, moi et mes amis, ça se déséquilibrait.
Même des fois, pas assez s'hydrater. Là.
Aussi, c'est ça. Fait qu'une capsule d'acide borique, une fois par semaine, même des fois moins. Puis ça fait la job. C'est en vente libre maintenant. C'est fou. C'est un truc vraiment intéressant. Moi, je suis allée au Ice Salt récemment.
Okay.
J'ai sauté dans les trampolines, j'ai eu beaucoup de plaisir.
On va parler d'incontinence urinaire.
Mais là, c'est ça.
OK.
Je pensais pas que je t'ai rendue là, mais clairement que moi, mon amie et plusieurs autres mamans avons le même problème quand on saute sur trampoline. Je pensais pas, là, mais on a levé si lousse, là. Je sais pas comment dire ça.
Ben, tu sais, l'incontinence urinaire, c'est un problème extrêmement fréquent, surtout les femmes avec l'âge. Là.
OK.
Puis les femmes qui ont eu...
des enfants?
Je sais pas que vieille, là.
Bon, je suis vieille, là, j'assume. Okay. 44.
Non, c'est des blagues. Mais c'est surtout après avoir eu des enfants, surtout des accouchements vaginaux, donc ça va être un facteur de risque. Fait que c'est sûr que là, à partir de 35-40 ans, là, toutes les femmes qui ont eu des enfants devraient commencer les exercices de Kegel. K-E-G-E-L.
Mais ça, j'en faisais tellement que mon accouchement s'est déroulé bizarrement, justement. Là. C'était très rare. Ça a déchiré par en haut. Mais, très rare. Mais
t'en faisais avant l'accouchement?
Oui, okay. Oui. Mais ça n'a pas empêché, dans le fond, ma vessie, quand même, de relâcher un peu.
C'est plus après, là, comme une prévention ou traitement. De le faire avant, ben c'est sûrement c'est intéressant. Là. Mais ça serait plus là, après les accouchements.
Ah,
OK. Le but, là, c'est d'essayer de prévenir l'incontinence ou même la traiter.
OK.
Pour les gens qui ne savent pas, là, Kegel, là, c'est K-E-G-E-L. Vous pouvez le taper dans Google. Mais l'idée, là, c'est pour identifier le muscle qu'on veut entraîner, c'est quand on va à la salle de bain puis qu'on essaye d'arrêter d'uriner au milieu du jet. Donc, OK. Fait que là, on a identifié dans notre tête c'est lequel muscle qu'il faut entraîner, OK?
Oui.
Puis après ça, on fait pas l'entraînement pendant qu'on va uriner. Là. On le fait là, pendant les annonces à la télé ou dans le trafic.
Ben
dans
là,
l'auto,
on est capable.
C'est ça. Fait que là, vous contractez 10 secondes.
On est capable de le faire.
Vous contractez 10 secondes, relâchez 10 secondes, faites ça pendant 2-3 minutes, 5-6 fois par jour.
Donc okay. ça 5-6 va... fois par jour quand même.
Ben, tu sais, je
veux dire... je pensais que c'était plus que ça.
Ben, vous pouvez le faire plus. Ben là, moi, je pensais que c'était déjà beaucoup.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, 5-6 fois par jour.
Mais pourtant, je le faisais tout le temps.
Hein?
Même qu'à un moment
faut pas
donné.
Virer
là...
avec ça non,
non
plus,
mais à un moment donné, à le faire.
Ah, j'ai
eu un orgasme.
Ben là, t'as plus besoin d'un chum, là.
Mais oui, j'ai besoin d'un chum. C'est différent. Non, mais ça, je serais curieuse de savoir sur le live si c'est déjà arrivé. Juste à force de contracter ton périnée, j'ai eu un orgasme. C'est venu qu'à me stimuler. Là,
Moi, j'ai une amie. Oui. J'ai une amie que ça y a déjà fait ça.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Mais c'est quand même impressionnant. Puis une fois en skidoo aussi.
Fait que c'est un incitatif.
En skidoo! Sauf une fois en skidoo.
Mais
en skidoo, tu faisais ton kegel sur
oui,
le skidoo?
Oui, c'est parce que je chantais. Ben, on dirait qu'en faisant le kegel, en plus d'être sur le skidoo, ça... C'est pas là, ça...
Okay.
Ça m'a mené à un orgasme.
T'as fait ton exercice pendant que tu faisais du skidoo?
Oui!
Là. OK,
wow. Ah non, mais moi, je suis capable de le faire n'importe quand. Mais non, mais moi, je voulais Moi, je l'ai faite beaucoup avant mon accouchement, mais durant mon accouchement, le médecin m'a même dit « Fais-tu de l'équitation? » Ça a l'air que mon périnée était comme okay. celle des... Oui, c'était comme celle qui faisait de l'équitation. Je ne sais pas c'est quoi le rapport, là.
Mais moi, j'inciterais plus les gens à le faire après.
Oui, oui, c'est ce que j'aurais dû faire. J'ai regretté un peu, moi, dire.
Puis c'est sûr que, tu sais, ça ne va pas traiter tous les types d'incontinence. Tu sais, ça... Et c'est plus pour les cas d'incontinence légère. C'est okay. sûr que les exercices de Kegel, c'est comme la première étape dans le traitement. Après ça, on peut avoir de la physiothérapie le périnéale. Donc, aller voir un physiothérapeute qui va, dans le fond, s'assurer qu'on fasse que vous fassiez les exercices de Kegel correctement. Puis des fois, il peut y avoir des techniques supplémentaires aussi.
Avec des boules chinoises, des boules de Kegel aussi?
Oui, bien, c'est toujours possible. Moi, je connais pas tous les secrets des physiothérapeutes.
Ah oui, OK. Moi, je connais presque tout. Non, c'est vrai.
Mais oui, elle connaît les secrets. Ouais, ouais. Planétiques.
Pour être capable d'identifier le...
Oui, puis c'est ça, pour ouais. bien retenir.
Exact.
Puis il y a différents poids, puis ouais. OK. Ouais,
ils ont
c'est
plein
super
de
intéressant.
Et sinon, il y a plein d'autres formes de traitements. Tu sais, comme au Clinique Marois, il y a différents types de traitements qu'on peut faire pour l'incontinence. T'sais, pour le cas plus léger, on peut faire des traitements avec micro-aiguilles, radiofréquences, qu'on appelle Morpheus. Donc, un traitement là, qui a très peu d'effets secondaires qu'on peut faire à Québec pour aller faire comme un rajeunissement là, vaginal. Là. Donc, c'est le même oui. concept, là, micro-aiguilles, radiofréquences, qui est utilisé en esthétique ou dans d'autres domaines, mais qu'on peut faire au niveau du vagin, de la vulve, puis qui va avoir un effet au niveau de l'urètre puis de la vessie. Après ça, on peut faire même des agents de comblement du bulcamide au niveau de l'urètre. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que l'acide hyaluronique, là. C'est du bulcamide, mais qu'on peut injecter autour de l'urètre. Mais
le traitement, ça doit pas être le fun,
le traitement le plus efficace, si on veut, c'est la bandelette urinaire, là, pour les cas plus sévères surtout. Donc ça, c'est une opération qu'on va faire d'un hôpital privé à Montréal, là, le Centre de chirurgie Mont-Royal. C'est une chirurgie d'un jour. Puis c'est endormi ou gelé dans le dos. Puis c'est une petite incision en dessous de l'urètre. Puis on va aller mettre une bandelette. Donc, qui est faite comme avec le même matériel que pour des points de suture. Puis ça va faire comme une tablette en dessous de l'urètre ou un hamac en dessous de l'urètre. Fait qu'on l'entre par une petite incision par le vagin, puis ça sort dans le bas du ventre par deux petites incisions. Puis c'est ça, le but, c'est vraiment là, d'empêcher le mouvement de l'urètre pour faire comme un effet de hamac ou de tablette là, en dessous de l'urètre.
Okay.
Puis ça fonctionne très, très bien. Je sais qu'il y a eu des controverses dans les dernières années parce que là, dans le temps, on faisait une bandelette qui passait par le trou obturateur, donc on appelait transobturateur, puis ça créait des douleurs au niveau des aines, puis il y avait des groupes Facebook qui s'étaient créés. On savait que c'était un risque d'environ 1 à 2% de douleurs chroniques après les bandelettes, mais là, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur au Québec, puis même il y a maintenant un moratoire, on n'a plus le droit de mettre cette technique-là, là, la bandelette transobturatrice. On est un des seuls endroits dans le monde qu'on n'a pas le droit de le mettre.
Okay.
Il a fallu retourner à l'ancienne technique qui était rétropubien. Donc, la bandelette, au lieu de sortir dans les aines, elle sort dans le bas du ventre en rétropubien. Donc, ça, c'est un détail au niveau technique pour nous, mais ça a créé beaucoup d'émoi là, dans la communauté des urologues il y a quelques années là, quand ça a été... Quand on a eu la mention là, qu'on n'avait plus le droit d'installer ça. Parce que ça fonctionne très, très bien là, pour les femmes. Il y en a que ça change leur vie. Il y en a une que je viens de faire là, à 41 ans. Puis, tu sais, quand je l'ai vue à son rendez-vous 2 mois après la chirurgie, là, elle m'a remercié. Là, j'ai changé sa vie. Là. C'est wow. sûr que ça peut être très invalidant. Là,
mais oui, moi, c'est extrême. C'est quand je saute sur le trampoline raide.
C'est pas tous les jours. Là,
mais non, mais non, mais non. Mais il y en a chez qui c'est tous les jours. Là,
c'est ça, le moindre mouvement
là,
dès qu'il se lève d'une chaise.
Oui.
Donc, ça peut être très, très invalidant, là, l'incontinence. Fait que, bref, il y a plein, plein d'options de traitement là, qui sont toutes disponibles à notre clinique, évidemment.
Assez parlé de la santé sexuelle et féminine. On va aller du côté des hommes, surtout que c'est le Movember.
Oui, c'est ça.
Tu nous as bien expliqué dans le show du retour qu'est-ce que c'était le Movember. J'aimerais quand même qu'on en parle, mais juste avant, les exercices de périnée, là, de Kegel et tout ça, ben, pas de Kegel peut-être, mais de périnée, est-ce que je me trompe ou c'est bon aussi chez les hommes?
Oui, ben c'est ça. Ça peut aider chez les hommes, surtout dans le contexte de traitement pour le cancer de la prostate. Si on pense à la chirurgie pour le cancer de la prostate, où on va enlever la prostate au complet, là, puis reconnecter la vessie au pénis pour enlever le cancer, bien ça, c'est très à risque pour l'incontinence. Donc moi, quand j'étais au public, là, j'étais 11 ans à l'Hôtel Dieu de Lévis, là, j'en ai fait une quantité astronomique, là, une cinquantaine par année, là, des prostatectomies, qu'on appelle. Donc ça, il y a comme un 5 à 10 de risque d'incontinence après l'opération. Donc ça peut être vraiment là, plate là, pour le patient.
Ouais.
Donc... C'est dans ces cas qu'on va demander même à ce que les patients fassent de la physiothérapie puis les exercices de Kegel avant l'opération là, pour essayer de diminuer le risque post-opératoire même. C'est ça. Mais fait que les exercices de Kegel, physiothérapie, vont être pertinents pour les hommes, surtout dans un contexte de chirurgie ou de traitement comme dans ce cas-ci. C'est quand okay. même plus rare là, l'incontinence chez les hommes. Puis souvent, l'incontinence chez les hommes, ça ne sera pas nécessairement avec une faiblesse du sphincter s'il n'y a pas eu d'antécédent de chirurgie ou de radiothérapie ou de traitement. S'il y a de l'incontinence, il faut penser à d'autres causes, une vessie hyperactive ou des fois même une rétention urinaire, quelqu'un qui a un trop plein d'urine dans la vessie puis que ça finit par sortir parce que là, l'urine ne sait plus où aller. Là.
Hey! Ça ne doit pas être agréable, ça.
Fait que ça prend une sonde urinaire.
Effectivement. Je vous rappelle qu'on est en live sur le TikTok de Mademoiselle Trudel Radio ou Mélanie Trudel. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice. On va faire une petite pause et réserver vos circuits puisque durant la pause, on prend les appels, on prend vos questions, mesdames et messieurs. 418-670-9098. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. On répond à vos questions. On en a déjà plusieurs aussi en banque qui étaient entrées là, cette semaine. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice avec Mel Trudel.
Radio X.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice
avec Mel Trudel.
Radio X.
Vous êtes de retour avec Mel et Mel. Vous écoutez la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X. On est avec nos deux invités, François Roy, entremetteur pour les événements Go See You, qui vous accueille le 28 novembre pour un beau speed dating à la cour arrière de Québec. Toutes les informations sont au célibataire-québec.com. Et notre cher urologue, Dr. Louis-Olivier Gagnon, qui est avec nous ce soir pour parler d'urologie, de santé masculine, féminine et tout ce qui touche finalement la zone urinaire et sexuelle. Et on a un appel, donc on répond à vos questions, mesdames et messieurs. Réservez votre circuit au 418-670-9098. La Sexploratrice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous avez une question pour notre urologue?
Yes, sir. Écoute, moi, j'ai vu passer récemment, en fait, puis je me posais la question sur l'hypnothérapie. À savoir, est-ce que l'hypnothérapie peut réellement aider soit les problèmes d'érection ou, à la limite, là, un meilleur contrôle de l'éjaculation lors de la relation?
OK. Bien, ça, c'est une super bonne question. La dysfonction érectile puis l'éjaculation précoce, là, les différents traitements. Bien, c'est sûr que l'hypnose, là, je vous dirais, dans nos livres là, d'urologie puis dans nos recommandations, c'est pas comme une option de traitement. Il y a peut-être des études là-dessus, là, mais je vous dirais que ça serait vraiment pas l'option préconisée là, initialement. Pour la dysfonction érectile, là, si on regarde les différents traitements disponibles, la première étape, bien, c'est d'essayer d'optimiser les habitudes de vie. Donc, éviter le surpoids, s'entraîner, bien s'alimenter, éviter le tabac, alcool, drogue. Donc ça, c'est la base. Après ça, c'est de faire un prélèvement là, de type bilan hormonal pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau de la testostérone. Donc, dans certains cas, quand la testostérone est basse, si on fait un traitement de remplacement de testostérone, TRT, ça peut aider pour les érections. Par la suite, le prochain traitement, ça serait avec les pilules. On connaît tous Viagra, Cialis. Donc, ça serait d'essayer la médication. Ensuite, on peut faire un traitement là, qui est super intéressant, que c'est nouveau. Là, c'est avec des ondes de choc puis du plasma riche en plaquettes. Donc ça, c'est la seule façon, en fait, d'essayer de redonner de la force naturellement au pénis. Comme envoyer le pénis au gym, si on veut. Là. Fait que c'est avec une machine spéciale à ondes de choc. Là. On entend les chocs, là, tac, tac, tac. C'est à peu près 5000 chocs par traitement. On applique ça avec une petite sonde là, au niveau du pénis. Ça fait pas mal, inquiétez-vous pas. C'est une fois par semaine pendant 6 semaines. C'est ça. Pour le premier traitement, on fait un petit boost aussi avec du plasma, là, du plasma riche en plaquettes, du PRP, qui est avec votre sang. Puis on centrifuge. On garde juste le plasma qui est comme jaune, là, puis on discarte les globules rouges, puis avec une seringue, on injecte ça là, dans le pénis. Fait que ça, plasma, onde de choc, ça aide. Sinon, dans les cas plus sévères, il y a des patients qui peuvent s'injecter avec une seringue là, dans le pénis avant chaque relation, un médicament, là, que ce soit alprostadil, bimix, trimix. Donc, ça, c'est une option là, de s'injecter avec une seringue dans le pénis avant chaque relation. Puis la dernière étape, bien, c'est l'implant pénien, là, donc... une prothèse là, qu'on met au niveau du pénis, puis il y a une petite pompe là, pour qu'on puisse gonfler. Fait que ça, c'est toutes les étapes pour la dysfonction érectile. Je vous dirais que l'hypnose, moi, j'ai pas de données puis d'études par rapport à ça, puis c'est aucunement dans nos lignes directrices ou dans nos livres. Là. On a des livres en urologie, là, 4 volumes le livre de Campbell, là, qui a à peu près là, 1000 pages par volume, 4000 pages, je parle aucunement là, d'hypnose. Mais tu sais, moi, je dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai la réponse à tout, là, mais on n'a pas de données là, pour le moment là, comme quoi ça aide. Pour l'éjaculation précoce, ça, c'est super intéressant. Parce que c'est quand même quelque chose qui est commun, puis les gens viennent nous consulter pour ça, puis souvent, ça leur prend du temps avant de consulter, il ne faut pas se gêner, là, il y a différents traitements disponibles. Ça, pour l'éjaculation précoce, ben, il y a des conseils de base, là, comme essayer d'éjaculer là, une heure ou deux avant la relation là, pour potentiellement faire durer le temps de latence plus longtemps. Après ça, utiliser un condom, ça peut aider. Sinon, il y a des médicaments qu'on peut essayer. Souvent, on va essayer une crème anesthésiante qu'on peut mettre sur le pénis là, 30 à 60 minutes avant. On appelle ça crème EMLA, là, E-M-L-A. C'est que ça va diminuer la sensation au niveau du gland. La personne va devoir doser là, puis trouver la bonne dose parce qu'on ne veut pas trop enlever de sensation puis là, causer des problèmes d'érection, en fait. Fait que faut juste trouver la bonne dose. Puis il y a des médicaments qu'on peut essayer aussi, là, comme le Paxil, qui habituellement est un antidépresseur qui peut aider à diminuer la sensibilité des nerfs. Le Tramadol, qui est comme un équivalent de la morphine, qui encore une fois, c'est comme un calmant, fait que ça peut diminuer la sensibilité des nerfs. Fait que il y a différents traitements. Puis même, il y a des interventions là, comme d'aller couper le frein. Je sais pas si vous connaissez là, le pénis, là, il y a un frein là, si on regarde là, au niveau du gland à 6 heures, là, à la portion ventrale, il y a un frein qui attache le prépuce. Donc ça, des fois, d'aller couper le frein, là, il y a des études qui démontrent là, que ça peut aider à diminuer la sensibilité. Puis même dans certains cas, on peut faire une circoncision là, pour essayer d'aider aussi. Fait qu'il y a vraiment là, beaucoup d'options là, pour les gens qui ont de l'éjaculation précoce. Puis c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Là. Puis en passant à l'éjaculation précoce, là, on parle à peu près là, moins de 2 minutes là, après la pénétration pour l'éjaculation. Il y en a que c'est juste quelques secondes. Ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, ça peut être très, très invalidant pour la personne. Fait que c'est super intéressant que ces gens-là viennent nous consulter pour qu'on puisse les aider. Là, parce que ça peut changer vraiment leur qualité de vie. Là. Fait que j'espère que ça répond à votre question.
Entièrement. Merci.
Oui, avez-vous d'autres questions?
Non, ça fait le tour.
Merci beaucoup d'avoir appelé.
Merci, bye.
Merci.
C'est très apprécié, merci. Il y avait aussi, je me rappelle, dans le retour cette semaine, en fait, on parlait du Movember, OK? Pour les gens qui voudraient l'histoire complète là-dessus, c'est disponible en live, en rediffusion, en fait, sur le site de Radio X. Mais vite, comme ça, le Movember, là, le mouvement de moustache.
L'idée, c'est que, dans le fond, le mois d'octobre, c'est le mois qui est réservé là, aux femmes avec le cancer du sein, le mois en rose, le ruban rose et tout ça. Le mois de novembre, c'est le mois de la sensibilisation à la santé masculine. La santé masculine... ça comprend notamment là, le cancer de la prostate, cancer du testicule, puis on peut même englober la santé mentale là-dedans. Ça, c'est un mouvement là, qui est né. Le Movember, c'est le quand on joint le mot le moustache et November, là, donc ça donne Movember pour ceux-là qui ne savaient pas. Ça, c'est un mouvement qui est né en Australie en 2003, puis qui a pris de l'ampleur, qui est rendu maintenant dans 21 pays, dont le Canada. Il y a un site web, là, Movember, que vous pouvez aller dessus. Puis les gens là, peuvent ouvrir un profil. L'idée, là, c'est que les gens se rasent le 31 octobre puis se laissent pousser une moustache.
Tout le long du mois de novembre.
Oui, pour accumuler de l'argent. On peut le faire là, sans accumuler de l'argent, là, parce que je pense que le coach canadien Martin Saint-Louis s'est laissé pousser
la moustache. En guise de soutien, en fait, à la moustache.
Puis j'ai regardé sur le site web Movember, puis il n'y avait pas de profil à son nom. Fait que on peut le faire juste pour sensibiliser, là, mais on peut le faire pour ramasser de l'argent. Puis les gens là, qui trouvent qu'ils ne sont pas jolis avec une moustache, on peut faire d'autres activités que d'avoir la moustache pour ramasser de l'argent. On peut courir, promener son chien, je ne sais pas. Là,
mais
peu
oui.
Importe. C'est ça. Le but, c'est d'apporter là, de l'attention là, sur tout ce qui est santé masculine. Là. Des fois, les gars, on n'a pas tendance à se parler de ça. Donc, c'est une occasion là, pour parler là, du cancer de la prostate. Dans le contexte du cancer de la prostate, c'est important de parler du dépistage. Le dépistage, ça veut dire essayer de découvrir à l'avance là, le cancer qui se fait habituellement avec la prise de sang, là, l'APS, là, l'antigène prostatique spécifique, et le toucher rectal, partie que les patients souvent aiment un peu moins. C'est ça. Le but, là, c'est de parler de ça, de la possibilité de dépistage, inciter les gens à aller en parler avec leur médecin de famille, urologue, pour savoir si pour eux, ça convient de faire le dépistage. S'ils ont pour le dépistage, habituellement, on commence à 50 ans. On fait ça à chaque année ou deux. Puis on arrête, là, passé 70 ans ou lorsqu'il y a moins de 10 ans d'espérance de vie. Puis on peut commencer plus tôt dans certains cas. Les gens qui ont des facteurs de risque, comme
dans la famille.
Les gens qui ont un antécédent familial, c'est sûr que ça augmente de beaucoup, là, de 3 à 4 fois le risque. Les gens qui sont de race noire, là, les Afro-Américains sont beaucoup plus à risque. ou les patients qui ont des anomalies génétiques dans la famille, notamment le BRCA1, BRCA2, là, qui est plus à risque. Donc ça, on commence à 40 ans à la place.
OK.
Donc c'est ça. Puis ça, c'est un service qui est offert là, aux cliniques Marois, le dépistage. On a beaucoup de patients qui viennent uniquement pour ça. Puis ça nous fait plaisir de faire le suivi puis de les rassurer avec ça.
Puis c'est important aussi de dire à messieurs, tu sais, comme nous, mesdames, en tout cas, j'espère même que tu le fais, mais l'auto-examen des seins mensuel,
hein,
on starte tout ça, nous autres, dans la douche, ou pas, là, ou dans le miroir, peu importe. Et les femmes qui portent des implants mammaires à l'eau saline, hein, le truc de la lampe de poche, ça fait très bien, semble-t-il.
Semble-t-il, hein,
semble-t-il. T'allumes une lumière, pouf, tu vois tout l'intérieur. Mais c'est un bon truc aussi pour savoir s'il y a des faux seins chez madame. Mais très sérieusement.
Donc, les célibataires devraient amener leur lampe de poche à la prochaine soirée.
C'est pas tellement sexy, je pense. Je pense que c'est pas tellement sexy.
Je pense
là,
que pour
de
une
faire.
Première soirée.
Est-ce que c'est un red flag?
Peut-être pas un red flag, mais c'est quand même précipité, je trouve. Ouais, ça dépend comment la soirée se déroule.
Faut que ça se passe vraiment bien. Là.
Si c'est la première fois que tu vois la personne qui te regarde et dit je vais te mettre une lampe de poche,
une lampe de poche seins, en bas de ton sein
pour voir s'ils sont vrais.
Mais c'est. En tout cas, c'est, bon, je trouve ça très impressionnant. Là. En tout cas, je trouve ça très drôle. Mais, messieurs, vous devez aussi tenter vos testicules.
Oui.
L'auto-examen des testicules.
Parce que le cancer du testicule, la façon de le trouver, c'est vraiment en palpant les testicules. Le cancer du testicule, c'est une masse solide qui se forme au niveau du testicule. C'est pas associé vraiment avec la douleur ou avec d'autres symptômes que l'apparition d'une masse, là. Donc, c'est vraiment important de le sentir. Parce que si on le sent plus tôt, ben, les taux de guérison sont encore meilleurs, là. C'est ça. On recommande aux hommes, là, aux jeunes, là, de palper, de faire l'auto-examen des testicules. Souvent, oui. Là, c'est quand on est dans la douche, là, au moins une fois par semaine, entre 15 et 40 ans. Parce que dans ces âges-là, le cancer, le numéro un, c'est le cancer du testicule. Chez les adultes, c'est le cancer de la prostate, là, le plus fréquent. Mais chez les jeunes, c'est le cancer du testicule. Donc, on invite les gens là, à palper là, les testicules là, dans la... Peu importe, là, pas obligé d'être dans la douche, là, mais au moins une fois par semaine.
Bon, oui, non, c'est ça. C'est juste que dans la douche, je trouve que ça se fait bien. Là,
c'est ça.
Mais en même temps, de te laver.
Ben, c'est ça. C'est
plus approprié qu'à la machine à café, mettons.
Oui, mettons. Mais s'il y a une petite bosse, disons, qui est comme difforme, là, mettons, ça, c'est-tu... Ça peut-tu être un amas de chair? Ça peut-tu être...
Ben, quand il y a un doute, c'est d'aller consulter. C'est sûr que les gens qui viennent me voir et qui sentent une bosse au niveau du testicule, c'est des fois... ça va être bénin, là, mais mieux vaut pas prendre de chance. Tu sais, les masses au niveau du testicule, ça peut être un spermatocèle ou un kyste de l'épididyme. Là. Le testicule, il y a comme un petit chapeau là, qu'on appelle l'épididyme. C'est là que les spermatozoïdes sont stockés. Quelqu'un qui est à l'affût là, peut se le palper. Là. Ben ça, il peut avoir une formation kystique là, qui se fait à cet endroit-là, qu'on va appeler soit kyste de l'épididyme ou spermatocèle, c'est synonyme. Fait que ça peut être une chose. Des fois, il y a du liquide qui se retrouve autour du testicule. On appelle ça un hydrocèle. Sinon, des fois, là, ça peut être... Il y a comme, tu sais, l'appendice, il n'y a pas juste l'appendice qu'on connaît là, dans le ventre. Il y a un appendice au niveau du testicule aussi.
Ah oui.
Qui ne sert à rien, là, comme l'appendice dans le ventre. Puis des fois, il peut se tordre. Il est sur le dessus là, du testicule. Puis des fois, il peut se tordre. Puis ça crée beaucoup de douleur pendant une semaine ou deux. Puis ça fait comme un petit poids qu'on va sentir parce que c'est comme un petit bout de chair. Puis quand il se tord, ben, il devient comme dur. Puis c'est là que ça fait mal. Ça fait comme un petit poids là, sur le dessus du testicule qui fait super mal. Ça fait juste partir tout seul.
Okay.
Mais des fois, les gens vont venir consulter pour ça. Puis tu sais, nous, on est capable de faire l'examen physique puis même faire une échographie scrotale aux cliniques Marois. Là, fait qu'on peut s'occuper de tout ça. Fait que quand il y a un doute, c'est de venir consulter. Il y en a qui sont plus sensibles puis qui remarquent là, même des tout petites masses de quelques millimètres, là, alors qu'il y en a qui se palpent plus jamais les testicules puis qui attendent vraiment trop longtemps. Puis là, ils ont vraiment un cancer là, qui englobe tout le testicule. Là.
Mais les gens sont gênés d'appeler, mais ça texte. Comme ici, on a quelqu'un qui dit « J'ai de la misère à palper mes testicules puis je suis mal à l'aise de demander à mon médecin de le faire. » Cette personne-là pourrait prendre un rendez-vous de suivi là, aux cliniques Marois sans passer par son médecin de famille, puis on vous appelle
c'est
directement.
C'est sûr qu'il y a des hommes qui sont très sensibles au niveau des testicules. Là. Même nous, quand on fait l'examen, là, des fois, on fait juste toucher à la peau du scrotum, puis le patient saute au plafond quasiment.
Parce qu'on voit dans les films.
Il y a différents
films,
niveaux
là.
De sensibilité. Là. C'est sûr que des fois, les gens ne sont pas habitués aussi. Là. Mais les gars, en général, on est sensibles aux testicules. Puis en fait, les douleurs aux testicules, c'est une demande de consultation fréquente aux cliniques Marois. Là. Il y a différentes raisons là, pourquoi on aurait mal aux testicules, mais c'est une demande de consultation très fréquente.
Puis est-ce que, tu sais, ce qu'il y a parfois dans les films porno, là, la fille, elle se rend tout ça, là, je sais pas trop, là, j'ai déjà
vu ouais, ouais, ouais.
Puis là, c'est... Mais je sais qu'il y a des hommes qui aiment
ça. Où?
Ça.
Ben, elle se rentre les testicules dans la bouche.
Au complet, ouais, dans la bouche. C'est pas risqué, ça, un peu comme...
Ben,
je sais qu'il y a des hommes qui fantasment là-dessus, là, mais en tout cas, je sais pas comment...
Les deux testicules dans la bouche? Ou...
Ouais.
OK.
As-tu vu ça,
ben, ben, une, deux, ouais.
Ouais.
Ben là, j'imagine qu'il y en a qui peut-être qui trouvent du plaisir là-dedans, mais moi je dirais en général, par expérience, ouais, une amie. t'as beaucoup d'amis à soir, toi là. Mais...
une amie qu'on a en commun.
Non, mais non, mais on parle pas de nous autres là.
Non, non.
On parle de quelqu'un. Non, mais dans les films là, non, des non, fois là. Ça.
Mais je dirais qu'en général, les gars sont vraiment sensibles des testicules, puis c'est probablement la minorité des hommes qui trouveraient du plaisir à ça là. Parce que par expérience, les gars, ils n'aiment pas même ça se faire
mais
du
non,
les
testicules. Mais non, c'est ça. Mais il y en a qui aiment ça. Mais
ben, visiblement, là. Mais...
En tout cas, moi, on dirait que j'ai tout le temps pas. Je suis comme... Mais puis, est-ce que c'est ça qui se produit quand les hommes embarquent dans de l'eau très froide? Une fois, t'es au Chili, puis les boys sont embarqués dans l'eau froide. Puis il y en a un... Il y a eu comme une remontée de testicules.
Ben oui, mais c'est parce que, dans le fond, les gens, ils savent pas, là. Mais c'est parce que ce qui tient les testicules, c'est le cordon spermatique. Puis dans le cordon spermatique, il y a un muscle. Qui est le muscle crémastère.
Oui.
Donc, les testicules peuvent monter en tout temps. Donc,
il y en a qui sont capables, froid... là, mettons, au karaté, là, ils remontent les testicules.
OK, ben là, ça, je ne sais pas. Là,
je pense
pas
que tu... là, Mel, tu vas trop loin. Là.
Parce que je pense pas que c'est un muscle qui est contrôlé par la volonté de la personne.
Non?
C'est plus le système nerveux autonome, là. Un peu comme la respiration.
C'est pas vrai, ça.
Fait que, mais l'autre chose, c'est qu'il y a le muscle crémastère là, qui tient les testicules, mais le scrotum, la peau, la poche, là, mettons, la peau là, du scrotum,
oui.
Il y a un muscle là, qu'on appelle le dartos, qui lui aussi là, peut se crisper, là, puis serrer là, les testicules.
Okay.
Fait que, le froid, là, ben, c'est ça, c'est un stresseur là, qui peut effectivement là, faire... faire en sorte que le scrotum devient plus serré puis faire monter les testicules. Là.
OK, mais quelqu'un là, qui fait du sport extrême, tout ça, il peut pas remonter ses testicules par lui-même. Là.
Non, ben là, il y aurait comme un super pouvoir, puis peut-être okay. qu'il pourrait participer à un cercle pour montrer ses talents.
On a quelqu'un sur le live qui mentionne qu'il a été chez les cliniques Marois. Très bon service.
Ah ben merci, c'est ouais. gentil. Ben, c'est ce qu'on essaie.
Pour ton partage.
C'est ça que ce qui est le fun au privé, c'est qu'on a beaucoup de temps. Tu sais, je pense que là, avec la loi 2, les gens parlent beaucoup là, du temps, puis du 10 minutes, 15 minutes pour voir un patient. Là. C'est sûr que nous, au privé, on a cette chance-là de pouvoir passer beaucoup de temps avec les patients, donc d'être à l'écoute, de répondre aux inquiétudes des gens. Puis aussi de travailler sur des pathologies, des fois, qui sont un petit peu délaissées par le public. Là, on parlait justement des douleurs aux testicules, éjaculation précoce, dysfonction érectile. C'est sûr que ça passe en. À la fin, là, après les cancers, les pierres aux reins, là,
oui.
quand les gens consultent au public. Fait que nous, ça nous fait plaisir de s'occuper des gens. Puis personnellement, moi, je trouve ça très gratifiant parce que même si c'est des maladies ou des symptômes qui peuvent ne pas être importants pour le public, ben pour les patients, ça l'est. Puis ça peut avoir un impact là, très important sur leur vie, leur qualité de vie, leur couple. Il y en a beaucoup des patients qui disent que leur relation est en péril là, s'ils ne règlent pas le problème d'éjaculation précoce, dysfonction érectile...
ou de pas d'éjaculation. Il y a des hommes qui ont l'érection, mais qui n'arrivent pas à éjaculer. Ça,
ouais.
c'est un autre problème en soi.
Oui, c'est ça. Mais souvent, ça, c'est comme un bon problème à avoir. Là. Mais,
Oui, mais ça peut être tannant, ta barouette, là,
ouais,
imagine.
Ouais,
hein. Tu fournis à vie, mais tu n'es pas capable d'avoir d'orgasme.
C'est ça. Non, mais blague à part, c'est ça. C'est des gens qui vont durer plus longtemps. Ben, c'est à ça que je faisais référence. C'est intéressant. Eux autres peuvent durer plus longtemps. Mais effectivement, c'est souvent qu'ils vont avoir un petit peu moins de sensations. Donc, plus de difficulté à éjaculer. Mais ça, il y a des traitements qu'on peut faire avec du PRP du gland là, pour améliorer la sensation du gland, pour améliorer l'éjaculation.
Merci beaucoup, Dr. Louis-Olivier Gagnon. C'était vraiment super intéressant, des cliniques Marois que vous pouvez contacter en tout temps. Merci, François. Merci, Mel. On va rejoindre, nous, retour de la pause, Amélie.
Oui.
Amélie Lévesque, notre chroniqueuse pour les spécialités troubles, mesdames et messieurs. Donc, restez avec nous. Vous êtes à l'écoute de la Sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X.
La Sexploratrice avec Mel Trudel.
Radio X.